6h-8h.
Matin première.
Medical Fat.
Il est 7h10, il en a vu, hein, des crises politiques et pas de quoi le troubler. Voici le parti pris du journaliste Alain Gerlache. Bonjour.
Bonjour.
Et en ce moment, la classe politique pique pas forcément là où il faut. Au contraire de Catherine Hernens, journaliste à Moustique. Bonjour.
Bonjour.
Premier arrêt donc pour ce parti pris en pleine crise politique.
S'il y a un gouvernement qui soutient ce pacte, ce sera un gouvernement où c'est impossible de tenir notre position.
Une partie importante, mais Bart Wever n'est pas membre du Kern.
Je suis Premier ministre et j'irai à Marrakech parce qu'il n'y aura pas de siège belge vide à Marrakech.
Voilà, on assiste à un véritable psychodrame gouvernemental depuis quelques jours. Et le citoyen dans tout ça, Catherine Hernens?
Ah, le citoyen, le pauvre citoyen qui assiste, qui est emmené dans un dédale juridique, hein, une sorte de course-poursuite politique entre le Parlement et le gouvernement. Certains pourraient dire qu'on assiste à un dîner de cons, et malheureusement que le con, c'est le citoyen, parce que à la fin, on est obligé d'appeler tous les constitutionnalistes du pays au chevet de cette situation. Et l'ordre du jour hier soir du gouvernement est tombé et on a l'impression que c'est comme si de rien. Le comme si de rien, ça c'est terrible. Parce que c'est peut-être bien comme ça, on doit rester prudent, on ne sait pas encore comment ça va se terminer, mais si le comme si de rien gagne à la fin, eh bien tout ça pour ça, le citoyen ne comprend pas ce qui se passe. Le citoyen se demande ce qu'on lui veut et il se demande si ce gouvernement va tenir, et finalement il va tenir, il ne tombera pas et il lui restera juste quelques bribes d'éclat politique pour s'en sortir et pour essayer de comprendre quelque chose.
Le regard d'Alain Gerlache sur cette agitation?
Écoutez, vous connaissez la pièce d'Alfred de Musset, une porte doit être ouverte ou fermée, sauf en Belgique où elle peut être contre, c'est-à-dire ni ouverte ni fermée. C'est comme ça qu'on cherche des compromis chez nous, hein. C'est notre nature, c'est même ce qui nous distingue aussi de la France, et finalement on ne s'en plaindra pas dans la situation actuelle. Mais ici le problème c'est qu'on ne cherche pas un compromis sur le fond, on ne cherche pas un accord, c'est uniquement une question d'image, de posture,
c'est du
théâtre électoral, c'est donc de la caricature de la politique. Le MR a perdu des voix sur sa gauche, coup de barre à gauche. Charles Michel apparaît comme faible, il tape du poing sur la table. La NVA a perdu des voix sur son extrême droite, coup de barre à l'extrême droite, au point que certains parlent d'ailleurs non plus de NVA, ni Vlaams Alliance, mais de NVB, hein, ni Vlaams Belang, avec en effet, comme Catherine l'a dit, le bal des journalistes, constitutionnalistes, politologues, etc.
Fait que si tout le monde
commentateurs, nous, oui, on est dedans, mais c'est un théâtre d'ombre. Quand a-t-on parlé vraiment du fond du problème de la migration et de la réponse à lui apporter collectivement? Finalement, dans tout ça, les seuls gagnants, c'est l'opposition, parce que c'est eux qui apparaissent, en effet, détenir le pouvoir de maintenir et le Premier ministre et le gouvernement.
Les seuls gagnants, c'est l'opposition, et au-delà de ça, moi, ce qui m'attriste le plus, c'est que le discours, finalement, qui est le plus passé, surtout en Flandre, évidemment, comme d'habitude, c'est celui de Philippe de Winter et du Vlaams Belang, parce que...
Remis en selle,
parce que finalement, on s'est pas du tout préoccupé du fond du dossier sur les migrants. Le migrant, lui, il est vraiment pas au cœur de la question, c'est du contorsionnisme, et le seul qui tape du poing là-dessus et qui utilise et qui instrumentalise en outrance, c'est évidemment l'extrême droite.
Bon, il y a quand même un lien avec le second sujet, on revient sur ce qui se passe en France avec ce mouvement extrêmement radical.
Je veux dire combien j'ai été choqué par la mise en cause de symboles qui sont les symboles de la France.
On vient pas non plus pour en prendre plein les figures, hein. Voilà, on est juste là pour leur exprimer le mépris qu'ils expriment pour nous.
On est là encore aujourd'hui, et s'il faut, on reviendra. Il n'y a pas de souci, parce qu'on veut se faire entendre.
Voilà, Paris, les Champs-Élysées transformés en Bastille de 2018, hein, cette Bastille de 1789. Alors Alain, est-ce qu'il faut la révolution pour que les choses changent?
Ça rappelle aussi un slogan de 68, hein, élection piège à con, une seule solution, la révolution. C'est une particularité française, hein, vous l'avez dit, on glorifie 1789, mais il faut quand même pas oublier que 3 ans après 1789, c'était la terreur, hein. 100 000 personnes qui ont été tuées arbitrairement par des pouvoirs successifs qui se réclamaient tous du peuple. Il a fallu un siècle pour que le système se stabilise. Et puis, dès le plus jeune âge, en France, qu'apprend-on aux petits-enfants l'hymne national. Par quoi il commence ? Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, cassant impurs, abreuves, nos sillons. Eh bien, il ne faut pas s'étonner que ça laisse des traces et que seule la violence, l'insurrection, apparaissent comme étant la solution au problème. C'est vraiment culturel. Le problème, il est beaucoup plus profond. C'est en effet la crise des institutions, la crise des partis politiques, la crise des syndicats aussi. Où sont les syndicats dans ce qui se passe maintenant ? On voit bien qu'à partir du moment où on sort du cadre, où on sort des corps constitués, eh bien, la violence apparaît comme le dernier recours à toute une série de gens. Et ça pourrait se poser aussi dans d'autres domaines.
Hein. Où sont les syndicats ? Olivier Macron s'est un peu exonéré des corps intermédiaires, notamment des syndicats, pour son plus grand plaisir. Et il se rend compte aujourd'hui qu'il en a besoin.
C'est une crise qui était sous-jacente depuis déjà beaucoup plus longtemps. On pourrait parler aussi de la faiblesse des syndicats en France, contrairement à la Belgique, où ils représentent quelque chose, et on voit que ça aide d'ailleurs à canaliser les choses, à permettre quand même une négociation. Mais le fond du problème, c'est que la démocratie apparaît non seulement de moins en moins juste, mais aussi de moins en moins efficace, et c'est très dangereux.
On est entré, je pense, effectivement, dans un âge de la colère, en fait. C'est Christine Lagarde qui, cette semaine, a utilisé cette expression. Et je pense qu'effectivement, on assiste à une mondialisation et que l'injustice sociale est vraiment en train de monter. Et il y a cette colère face à des réalités qui sont là. Les géants de la technologie sont tout puissants et les États sont de plus en plus faibles. Et les gens sont perdus par rapport à tout ça. Il y a une rupture sociale qui est inédite, hein. Et donc un besoin de c'est pas un besoin, c'est vraiment un fossé qui se creuse et une perte de sens, et les gens redescendent dans les rues. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que c'est sur les réseaux sociaux que ce mouvement se crée actuellement, mais qu'une fois qu'ils sont dans la rue, ils redécouvrent, les gens, que dans ce monde de solitude, on peut avoir une forme de chaleur humaine à être tous ensemble.
Vous parvenez à faire une analogie avec ce qui s'est passé dimanche dernier dans les rues de Bruxelles avec cette marche pour le climat, Catherine ?
Oui, je pense que ça relève aussi de cet âge de la colère. Hein. Ce sont des citoyens qui sortent de chez eux parce qu'on est dans un monde globalisé dans lequel on est de plus en plus perdu. On voit que le modèle libéral qui avait encore la corde jusqu'à la fin du XXe siècle, qui devait apporter le progrès sur toute la planète et les droits de l'homme partout, est en perte de vitesse, voire est un peu même fracassé. Et donc il n'y a plus de modèle. Et donc les gens se demandent à quoi se vouer, et ces causes, ils descendent dans les rues actuellement pour les défendre.
Oui, ce qui est intéressant, c'est le profil des gens qui ont été amenés devant le tribunal. Évidemment, les casseurs, ils s'en sortent toujours, ils s'arrangent pour ne pas être pris. Mais ce sont pour beaucoup des gens entre 30 et 40 ans, ils ont parfois un job, ils ont une famille, et ils se sont radicalisés. On a tendance à focaliser la radicalisation sur une certaine partie de la population. Il faudrait peut-être voir que dans toute une série de secteurs de la population, on est aussi en train de se radicaliser.
C'est le même processus ?
C'est un processus, en tout cas, qui rappelle, qui part d'une forme de désespérance et qui en arrive à des extrêmes qui sont évidemment condamnables, mais qu'il faut pouvoir analyser et essayer de comprendre.
Je vous propose maintenant de parler de